enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Allons ensemble dans la parole de Dieu à Genèse, chapitre 37. Nous allons lire la première portion de la vie de Joseph dans quelques instants. Alors que nous arrivons ce matin, nous entrons dans la deuxième partie de cette série de messages, le rêve de Dieu. Nous allons prier, vous allez avoir sur l'Internet de cette semaine et dans les bulletins à chaque mois, des premiers jours de chaque mois, des semaines de prière avec les dates exactes, vont être communiquées à tous pour que vous puissiez jeûner avec nous quelques jours pendant la première semaine de chaque mois. Il y a des réunions de prière qui vont prendre place tout, il y en a chaque semaine, il y a 15 réunions de prière par semaine à l'Église Nouvelle-Vie, mais dans le mois de janvier, des emphases particulières. J'ai mentionné ce soir, nous allons avoir ce soir cette réunion où nous venons, où tous les pasteurs sont là, on va tous être là pour prier avec vous, imposer les mains, il y a des classes pour les enfants, il y a des pouponnières, il y a tout ça. Mais l'équipe pastorale va être là parce qu'on veut prier avec vous pour un déversement, une plénitude du Saint-Esprit. Il y a des activités pour tous les garçons et les filles et il va y avoir le temps, nous prenons le temps ce dimanche soir pour la présence de Dieu. Et le pasteur Patrice Robin va apporter la parole, il est venu prêcher, apporter la parole en 2006. Et on a eu un moment béni, une visitation de Dieu. Il a une onction particulière. Il était pasteur en France et maintenant à Montréal. Et l'église où il est pasteur à Montréal vit un renouvellement dans la prière. Il a une onction, une foi pour la prière, pour le Saint-Esprit, pour l'action de Dieu, pour que des gens soient remplis de l'Esprit. Et lorsqu'il a apporté la parole la dernière fois, on a eu une réunion de diacres quelques jours qui ont suivi. J'étais béni et interpellé d'entendre plusieurs des diacres, des chrétiens de longue date, dire il y a quelque chose qui a pris place dans cette réunion-là. Cet homme-là a quelque chose sur sa vie. Alors, soyez là, ce soir, nous allons avoir un temps puissant ensemble, ainsi que toutes les réunions de prière de la semaine. On est aussi extrêmement touchés lorsqu'on vous parle tous les messages à partir de cette semaine. Chaque message de la série Rêve de Dieu va être sur Internet. Et nous sommes, lorsqu'on parle de la plus grande réunion de prière en ligne dans la francophonie, c'est que tous les messages vont sur Internet et des gens l'année passée d'une trentaine de pays se sont joints à nous, nous envoient des emails, nous le disent, nous écrivent, ils prennent les plans de prière, ils prennent les différents thèmes que nous abordons et c'est toujours émouvant, touchant et en même temps une grande responsabilité de voir la grâce que Dieu nous donne alors qu'on est ici à faire l'œuvre du Seigneur, de voir maintenant un certain rayonnement qui nous émeut et en même temps qui nous stimule énormément. Cette semaine, c'est arrivé, j'ai reçu une lettre de certains des dirigeants, un email, bien sûr, un courriel du Top Chrétien. Vous avez l'adresse qui va apparaître à l'écran de l'adresse du site Internet de l'Église Nouvelle-Vie, mais aussi du Top Chrétien, qui est le plus grand site Internet francophone au monde. Et ils ont quelque chose, il y a une espèce de mystère qui se passe dans le staff en ce moment, c'est que depuis plusieurs mois, en 2006, on est en train de se préparer, parce qu'en 2007, au-delà des CD, nous allons commencer à rendre disponibles des DVD, des réunions et des messages, mais on se préparait parce qu'il faut travailler pour avoir une bonne qualité, les éclairages et toutes sortes de choses. Et bien franchement, je peux dire les éclairages et toutes sortes de choses, mais le plus gros problème, c'est moi. Le plus gros problème, c'est qu'il faut qu'ils mettent il y a toutes sortes de suggestions, ils vont mettre des X par terre, etc. Pour que ça sorte bien sur Internet, il faut que les caméramans soient capables de me garder à un endroit à l'intérieur d'une... Alors, ils ont dit, c'est bien simple, parce que là, on va mettre une ligne là, puis une ligne en arrière, puis une ligne en avant, puis tu n'as pas le droit de dépasser ça, c'est extrêmement simple, tous les prédicateurs font ça. Combien croient au miracle ici à l'Église de la Nouvelle-Vie? Il y a quelqu'un d'autre moins gentil sur le staff que je nommerai pas qui a dit ce qu'on devrait mettre, c'est des clôtures de barbelés électriques avec beaucoup de voltage. Puis s'il dépasse, il va se rappeler qu'il faut qu'il reste au milieu. Et ce qu'on sait pas, on n'a pas trouvé coupable encore. On avait, depuis quelques mois, on faisait des essais avec, on filmait, on n'a pas rendu ça encore disponible. Mais il y a quelqu'un du staff, puis il y a quelqu'un qui a dit, oh oui, vous avez donné la permission. Mais moi, je me souviens pas d'avoir donné la permission, peut-être que je l'ai faite, c'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui a pris un des DVD, puis qui l'a envoyé au Top Chrétien, qui en demandait depuis longtemps. Puis eux, dans un élan extraordinaire, l'ont mis sur l'Internet. Et cette semaine, la première journée où ils ont mis une des prédications de l'automne, ils ont mis un message. La première journée, il y a 3000 personnes qui ont regardé le DVD, et ils m'ont dit que dans la dernière année, il y a 120 000 personnes qui ont écouté les messages que vous entendez ici le dimanche matin. Alors, lorsqu'on va appeler, on leur en donnait quelques-uns, alors on va leur en donner plus. Et nous avons une vision dans la prochaine année de voir 1 million de personnes venir nous visiter et entendre le message du rêve de Dieu. Je vais vous dire amen partout au Québec, partout dans la francophonie. Alors nous allons ensemble nous emparer de ce rêve de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière, quand il n'y a pas, Proverbe 29, 18, la fondation de ce message, quand il n'y a pas de vision ou de rêve, le peuple périt. Que c'est le désir absolu de Dieu pour chaque chrétien ici d'entrer en 2007 avec Dieu donne cet avertissement solennel. Même si tu es là, tu es fidèle, tu aimes le Seigneur, s'il y a des événements qui ont pris place, des déceptions, des blessures, un tourbillon dans ta vie ou simplement un train-train, une routine qui s'est installée qui fait que tu es là et qu'il n'y a pas une vision brûlante sur ton cœur pour ce que Dieu veut faire, le peuple est en danger. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Il n'y a rien de plus triste. Rien de plus morne, il n'y a rien de plus décevant, il n'y a rien de plus dangereux, de plus ennuyant qu'une église qui n'a pas de vision, qu'un mouvement d'église qui a perdu sa vision, qu'un croyant qui a perdu sa vision. Dieu dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le désir de Dieu, et je prie que ce soit une onction, il y a des gens en prière en ce moment, à chaque réunion, pendant que nous communiquons la parole, afin que ce soit pas du blabla, ce soit pas des mots, mais que l'onction du Saint-Esprit vienne sur chaque croyant, et que dans les prochains mois, il y a une résurrection du rêve de Dieu dans chacune de nos vies et dans tous ceux qui vont écouter ce message. On a vu ensemble qu'à chaque fois que nous trouvons le mot « vision » dans la parole de Dieu, on a vu que c'était... Est-ce que quelqu'un se souvient la semaine dernière, c'était quoi le mot hébreu pour « vision » Est-ce que quelqu'un peut me le dire? 1, 2, 3. Il y en a 7 qui s'en souviennent, ce qui est formidable pour mon égo de communicateur qui pense qu'il marque votre vie pour toujours à chaque fois que... et que vous vous souvenez à jamais. Le mot hébreu pour vision, qu'on écrirait en langage écrit « chazon », mais on a vu ensemble, là tout le monde le dit, là, mais ça compte pas s'il faut que je vous le dise avant. On a vu ensemble que « chazon », il n'y a pas de « ch » dans le langage hébreu, alors le vrai mot en hébreu, c'est « chazon ». Alors j'aimerais que tout le monde le dise ensemble. 1, 2, 3. Vous allez continuer à vous pratiquer, on va y arriver à un moment donné. Le mot vision vient du mot hébreu chazon, hazon, qui signifie rêve, révélation, possibilité prophétique ou vision. En ce début 2007, Dieu dit à chaque croyant, j'ai un rêve pour toi. Dieu dit à chaque personne, à chaque église, à chaque croyant, à chaque personne qui va écouter ce message, chaque famille, chaque couple. Dieu dit, j'ai un rêve pour toi. Il y a une promesse, il y a un cœur en ébullition de la part de Dieu qui dit, j'ai un rêve pour toi. J'ai quelque chose pour toi en 2007 que personne d'autre qui ne peut posséder ou ne peut accomplir, qui t'est propre. Tu as été créé pour ça. Il y a un plaisir que tu procures à mon cœur que personne d'autre ne peut amener. Il y a une tâche, il y a une louange que tu apportes. Il y a une tâche, il y a un rôle que tu joues que personne d'autre, que tu dois redécouvrir et que tu dois protéger, que tu dois t'en emparer. Et à chaque fois que nous annonçons la promesse de Dieu, nous ressentons dans la prière, il y a toujours quelqu'un il y a des centaines peut-être qui sont là et qui a une résistance dans votre esprit. Il y a des gens qui sont ici, qui ont des années et des années de paroles négatives qui ont été dompées sur vous, des choses qui vous ont été dites depuis votre tendre enfance, des paroles de mort, des paroles qui annulent, des paroles qui paralysent, des paroles qui avortent, des paroles qui abaissent. Ont été prononcés au-dessus de votre vie et devenu votre nourriture, puis c'est devenu ce que vous pensez de vous-même. Et Dieu arrive avec douceur, avec amour, parfois à travers les Écritures. Lorsque tu regardes toutes les fois où il annonce son rêve, c'est souvent à des gens qui sont dans une situation où humainement ils se sentent bien loin du rêve, comme dans Jérémie 29. Il s'adresse à des gens qui sont captifs. Dieu dit, je connais ta captivité, je sais ce qui t'arrive, mais j'ai un rêve pour toi. Des gens coupables et condamnés. Des gens qui sont peut-être ici ce matin, que vous avez été condamnés. La loi vous a condamnés, la vie vous a condamnés. Vous vous sentez coupable, des gens vous ont trouvé coupable. Vous êtes coupable ce matin, mais Dieu dit, devant tous tu es coupable, mais moi j'ai un rêve pour toi. Des gens qui étaient, une lettre à des gens qui étaient chloroformés littéralement par leur ennemi. Vous savez la scène que tu vois lorsque quelqu'un marche, puis tout à coup, le chloroforme sur le visage, puis tu t'arrêtes, puis tu es comme engourdi, tu es comme paralysé. Il y a des gens dans ce lieu ce matin qu'en 2006 ou dans les années précédentes ou récemment, il y a une tragédie, il y a une erreur, il y a un péché, il y a un échec, il y a une série d'événements qui ont pris place, qui vous ont foudroyé, qui vous ont frappé, puis vous êtes là ce matin, mais vous êtes comme engourdi. Et Dieu dit, avec douceur et amour, j'ai une promesse pour toi. J'ai encore un rêve pour toi. Une lettre à des gens craintifs. Une lettre à des gens convaincus qu'ils ne sont pas capables. Une lettre qui vient du cœur de Dieu. Écoutez-la ce matin. Jérémie 29, Dieu dit, voici ce que dit le Seigneur. J'interviendrai pour vous. J'accomplirai ma promesse en vous faisant revenir. Car je connais les rêves, je connais les chazones, je connais les plans, je connais les destinées que j'ai formées à ton sujet. Des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que ces mots pénètrent vos cœurs ce matin. Dieu dit, voici ce que je voudrais qu'arrive en 2007. Vous allez vous tourner vers moi, vous allez prier et je vais vous exaucer. Vous allez me chercher de tous vos cœurs et je vais me laisser trouver par vous. Voici le rêve que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Et tout ce que nous faisons à l'Église Nouvelle Vie, chaque ministère, chaque passion que nous faisons dans ce pays ou dans les nations, est afin de restaurer une personne à la fois, chaque être humain à la réalisation. Nous sommes, après toutes les années, impliqués en Haïti parce qu'on veut laisser savoir à chaque personne que nous touchons, parmi nous que nous touchons en Haïti, si le reste des nations vous oublie, si le reste des nations a lancé la serviette, si le reste des nations ne pense qu'il n'y a plus rien qui peut arriver avec vous, la nation chrétienne, les enfants de Dieu vous disent « Dieu a encore un rêve pour votre pays ». Chaque personne, chaque ministère, dans les rues de Montréal, ou dans l'école du dimanche, dans les classes, ou dans Action Nouvelle Vie, dans tout ce que nous faisons, la vision est de restaurer le rêve de Dieu. Il n'y a rien de plus triste, rien de plus dangereux que quelqu'un qui a perdu le rêve de Dieu. Rien de plus effroyable qu'un enfant à qui on a volé le rêve de Dieu. Un enfant, vous pouvez imaginer les milliers d'enfants qui sont 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans au Québec, qui n'ont aucune espèce de pensée d'espoir d'avenir pour eux-mêmes. C'est la raison qui est derrière la vision de notre ministère, cette nouvelle ouverture que Dieu nous a permis pour un endroit comme le projet Aquarelle, où on va dans un centre pour des jeunes, et on va aller là-bas et on va essayer, par la grâce de Dieu, de les soutenir, on va essayer de les aider, le Centre Limoges, je cherchais le nom, le Centre Limoges. C'est un centre pour garçons, j'en ai parlé en décembre, c'est un centre pour garçons que le système ne peut plus rien faire pour eux. Ils ont rentré là à 4-5 ans, les foyers d'accueil ne peuvent plus rien pour eux. Tous les foyers d'accueil doivent les envoyer là. C'est presque comme un pénitencier pour enfants. Les intervenants sont extraordinaires, font le mieux qu'ils peuvent, mais c'est des enfants qui sont dangereux pour eux-mêmes, c'est des enfants qui sont dangereux pour les autres, des enfants qui ont été violentés et qui deviennent violents, des enfants qui sont pas capables de fonctionner dans un foyer d'accueil, pas capables d'aller dans des classes en ce moment normales, des enfants dans lequel il n'y a plus de rêve, des enfants où les choses les plus petites deviennent immenses. J'étais secoué lorsqu'on a appris d'un garçon, une des choses qu'on fait, on a un plan pour toute l'année, mais une des choses qu'on fait, c'est que des équipes de l'Église vont fêter, célébrer l'anniversaire de chacun des petits gars. Alors, on a toute la liste des anniversaires et on va aller à chacun de leurs anniversaires, de plusieurs anniversaires de fait déjà. On arrive avec le gâteau, avec les cadeaux, on est là. On veut simplement être là pour leur dire « ta vie compte », leur dire « il y a de l'espoir, il y a quelque chose ». Il y a plusieurs d'entre eux qui n'avaient jamais eu d'anniversaire avant. Lorsqu'on a amené les enfants ici à une soirée, le soir de l'Halloween ici, il y avait plusieurs d'entre eux qui n'avaient jamais été à une soirée comme ça auparavant. Lorsqu'un des garçons qui était là, que sa fête était au mois d'avril, a appris qu'au mois de mai, il était pour sortir, pour s'en aller, ou en avril, il était pour sortir, pour s'en aller dans un foyer d'accueil, il a dit « Non, je veux pas y aller, je veux rester ici parce que je veux pas manquer ma fête. Les tantes de Nouvelle Vie vont venir, puis je veux pas manquer ma fête. » J'aimerais dire que la vision, le cœur de ce projet, on va aller là-bas, on va célébrer les anniversaires, on va développer des liens de confiance, on veut rénover chacune des pièces, on va rendre chaque pièce belle et accueillante tranquillement, on veut faire des liens avec des gens qui ont des compétences ici, qui ont le cœur pour ça, on veut faire un programme de grands frères et de grandes sœurs et de familles d'accueil tranquillement avec eux, on veut organiser des activités avec nos contacts que nous avons avec les Canadiens, avec les Alouettes. Étape par étape, nous voulons restaurer à chacun de ces enfants-là que Dieu a un chazon, Dieu a un rêve pour eux, Dieu a une vie pour eux. Il y a quelque chose d'autre que ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant, et que ceux qui le veulent avec moi disent « Amen ». Donc, regardez ensemble dans la parole de Dieu, à travers le personnage de Joseph, au rêve de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous allons découvrir Joseph ensemble. Joseph était le fils de Jacob et de Rachel. Il est né approximativement 1910 ans avant Jésus-Christ. Son nom veut dire « Dieu a ajouté ». Dieu a répondu. Dieu a rendu possible. Une femme qui ne pouvait avoir d'enfant, Rachel, a prié, elle a crié à Dieu, il l'a exaucé, et Dieu lui a donné un enfant, elle l'a appelé Joseph, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui a réalisé mon rêve, c'est Dieu qui a ajouté. Nous le découvrons dans les Écritures, dans Genèse chapitre 37, à l'âge de 17 ans, avec un passé dur, horrible, des conditions de vie familiale dysfonctionnelles, cruelles, dangereuses. Il sera vendu dans sa vie comme esclave, par ses frères, accusé de façon mensongère alors qu'il était innocent, mis en prison où il souffrira injustement, se pensant oublié de Dieu, il est miraculeusement élevé dans le rêve que le Seigneur fidèle avait pour lui. La vie de Joseph nous appelle à la préparation, à la pureté, à la persévérance, à la prière, au pardon et à la puissance nécessaire pour l'accomplissement du rêve de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous allons lire le texte ensemble, il va apparaître à l'écran pour ceux qui n'ont pas leur Bible, mais regardez avec moi dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 37, et on va lire un assez long texte ce matin, puis dans les prochaines semaines, on va aller verset par verset et découvrir ensemble le rêve de Dieu à travers la vie de Joseph. Genèse chapitre 37, et le verset 1, « Jacob habita dans le pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob, Joseph avait 17 ans. Et faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des filles de Bila et des filles de Zilpa, femmes de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. Israël est un autre nom pour Jacob. C'est un nom que Dieu lui a donné après qu'il l'ait touché. Mais Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Verset 6. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout et que toutes vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu penses que tu vas régner sur nous? À moins que tu ne prétendes être notre maître et le haïr encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères et dit, voici, j'ai eu un autre rêve. Regardez avec moi au verset 12. Les frères de Joseph s'en allèrent pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères font paître le troupeau à Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Verset 18. Ils le virent de loin. Et avant qu'il ne se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le maître rêveur qui arrive. » Certaines versions disent, « Regardez, c'est le grand rêveur qui arrive. » Verset 20. « Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. » Et là, à ce moment-là, on verra ce qui va arriver avec ses rêves. Exactement ce qui est dans le texte. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite, regardez la froideur, ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Verset 27. Verset 26. Alors Judas dit à ses frères, verset 27, venez, vendons-le aux Ismaélites. Verset 28. Puis au passage des trafiquants midianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Israël. C'était le prix pour un esclave handicapé. Verset 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils l'envoyèrent, la tunique bigarrée, à leur père en lui faisant dire, « Nous avons trouvé ceci. Reconnais donc si oui ou non c'est la tunique de ton fils. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et alors, il déchira ses vêtements par deuil, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Tous ses fils et ses filles se levèrent pour le consoler. Mais il refusa toute consolation. Il disait, « C'est dans le deuil que je descendrai vers le séjour des morts. J'irai jusqu'à ma mort en pleurant mon fils. » Et les Madianites vendirent Joseph en Égypte. J'aimerais vous proposer que dans ce chapitre que nous venons de lire, nous allons découvrir ensemble que le rêve de Dieu est plus grand que le pire des passés. Le rêve de Dieu est plus grand que les pleurs du présent. Le rêve de Dieu est plus grand que le péché et la saleté des êtres humains. Le rêve de Dieu est plus grand que les prisons dans lesquelles nous avons été jetés. Le rêve de Dieu, j'aimerais aimer ça que vous disiez amen à n'importe quel moment dans les premiers points. Le rêve de Dieu est plus grand que les perceptions des hommes, ce que les hommes ont pensé ou pensent de vous. Le rêve de Dieu est plus grand que la pauvreté et la petitesse qui nous entourent. Et le rêve de Dieu est plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer ou penser. Le rêve de Dieu est plus grand que le pire des passés. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu que l'homme Joseph, on va lire toute sa vie ensemble, vous allez découvrir comment Dieu se sert de lui. Cet homme-là a touché un pays entier, un rêve extraordinaire de Dieu qui s'est accompli en lui. Et pourtant, il a un passé extraordinairement douloureux. Je suis reconnaissant devant le Seigneur pour chacun d'entre nous qui avons des choses dans nos passés qui nous retiennent, qui nous paralysent et qui nous font du mal et qui pourraient penser un instant, pourraient être pris dans une incrédulité de penser que le rêve de Dieu est pour quelqu'un d'autre, mais certainement pas quelqu'un comme moi, que Dieu nous a permis de voir. Sans, il a pas teinté les vitres, il a pas essayé de mettre un fil pour que ça soit bien. Les personnages bibliques ne sont pas des héros parfaits au passé impeccable. Lorsqu'on regarde à Joseph, on voit un passé qui est horrible. Et c'est avec beaucoup de transparence que la Bible en parle. Je parle à des adultes ce matin. Mais lorsqu'on regarde à Joseph, on réalise que son père, Jacob, était un homme qui avait eu des moments avec Dieu, mais dont le nom signifie trompeur, menteur. Toute sa vie, Jacob a menti, il a trompé, il a, en québécois, bargainé. Toute sa vie, il essayait de être un peu avec Dieu, mais croche au fond de son cœur, un peu, mais à ma façon. Et c'était cet esprit-là dans lequel Joseph est né. Sa demi-sœur, Dina, est violée. Et ses demi-frères exécutent leur vengeance avec un massacre, tuant tous les hommes de la ville, emportant richesses, femmes et enfants. Joseph est comme plusieurs d'entre vous que ce n'est pas écrit sur vos visages, mais vous avez vu, vous avez connu, vous avez été à côté, vous avez vécu, vous avez côtoyé des choses d'horreur, des choses horribles qui ont pris place, de violence et d'injustice et de douleur et de comportements humains incompréhensibles. Vous les avez subis vous-même et vous avez vu des gens proches de vous les subir. Et alors que tout extérieurement a l'air OK, ça laisse une marque sur vous. Sa mère meurt tragiquement en donnant naissance à son frère Benjamin. Celle qui l'aimait tant, celle qui le protégeait, celle qui avait prié jusqu'à ce qu'il vienne à l'existence, c'était son ancre spirituel, c'était au milieu des demi-frères et des concubines et tout le reste, il y avait sa mère. Et alors qu'elle décède tragiquement, c'est certain que nuit après nuit, Joseph s'est senti comme un agneau entouré d'une meute de loups. Personne ne se préoccupe de mon âme. Son demi-frère Ruben a des relations sexuelles incestueuses avec Bila, la mère des deux. C'est tout dans les chapitres précédents. Avec Bila, la mère de deux de ses demi-frères, une concubine de son père. Il y a des personnes qui sont ici qui ont grandi dans la moralité, grandi dans l'immoralité. Partout autour de vous, des gens autour de vous qui ne vous ont donné aucun compas moral. Un monde de pornographie, un monde d'infidélité, un monde d'adultère, un monde de débauche partout autour de lui. Il y a cette folie qui prend place de fornication et cette folie aussi de dépravité qui l'entoure. Mais il y a un père passif qui ne réagit ni au viol de sa sœur, ni au comportement dépravé de son demi-frère. Alors, il n'y a personne pour lui apprendre comment contrer ces choses-là, comment réagir, qu'est-ce que je devrais faire. L'inverse, Jacob laisse tout aller. Un père âgé qui crée une atmosphère de haine, de rivalité et de jalousie en faisant de Joseph son chouchou. Israël aimait Joseph plus que tous les autres parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. C'est saisissant. Ils vivent dans un milieu rural. Ils s'occupent d'animaux, ils s'occupent de bêtes et ils travaillent la terre. Et Joseph, lorsque tu étudies les textes hébreux, tu te grattes la tête parce que le mot en hébreu veut dire une espèce de tunique sans manches. C'est comme quelque chose que tu mettrais sur un pontife ou bien vous voyez un reine, un roi quelque part, une espèce de toche de roi qui est mis, imaginez-le. Puis plusieurs commentateurs pensent qu'il y avait des pierres précieuses dessus. Une espèce d'Elvis avant son temps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'image m'est venue comme ça, c'est pas inspiré, là. C'est plus de la transpiration que de l'inspiration. Mais vous savez, Joseph arrivait, les frères travaillent, les frères s'occupent du bétail, les frères sont dans le champ, puis Joseph arrivait, c'est comme un gars qui arrive avec son vison sur le chantier de construction. Est-ce que vous me suivez? Ce manteau-là, il y a ce favoritisme-là, il y a ce père-là qui, d'un côté, laisse toutes ces choses que j'ai décrites si laides, si hideuses, la dépravation. Il y a une atmosphère de violence, de dépravation. Les crimes ne sont pas corrigés. Il y a un viol qui prend place, il y a une débauche qui prend place. Tout ça continue, tout tourbillonne autour de lui. Il y a cette affection pratiquement malsaine du père qui est là, en tout cas déséquilibrée. Il y a la haine de ses frères, la haïssent de plus en plus. Il se lève le matin avec des gens qui la haïssent, ils veulent son mal. Il se couche le soir avec ça. Et dans tout cet environnement-là, Joseph, nous retrouvons Joseph, un environnement de haine, de mensonges, de menaces et de solitude, avec le rêve de Dieu comme seul espoir. Puis on a lu ensemble que Joseph arrive un matin et dit à ses frères, et dans un message suivant, on parlera ensemble de comment protéger le rêve de Dieu, comment développer, nourrir le rêve de Dieu. Puis on peut discuter de la sagesse. Tous les théologiens et les commentateurs discutent sur des pages et des pages. Est-ce que c'est un orgueilleux? Est-ce que c'est un arrogant? Un inconscient, en tout cas? Un innocent, voyons, d'aller dire ça à ses frères de cette façon-là? Est-ce qu'il était tellement ignorant? Est-ce qu'il était prétentieux? Est-ce qu'il avait besoin d'être abaissé? Puis c'est pour ça que... Et tout ça, tout un débat qui est là, mais la scène est assez savoureuse. Avec tout ce climat de haine autour de lui, puis d'envie et de jalousie, Joseph, 17 ans, se lève et dit à ses frères, « Hey, les gars, venez ici une minute, quelque chose à vous dire. C'est spécial des fois, là, hein? Tant qu'on fait des rêves, là, tu sais, des fois. Puis moi, j'ai fait un rêve, en tout cas, c'est incroyable. Laisse-moi t'en... Non, reste, là, laisse-moi te le compter, c'est un rêve, c'est tellement spécial, tu sais, des fois, les rêves. C'est un rêve, là, que vous étiez tous là. » Puis, c'était un rêve spécial, vous étiez tous là. D'un coup, là, moi, j'étais avec vous autres. D'un coup, là, Dieu, là, il m'élevait. Puis vous autres, là, vous vous prosterniez toutes devant moi, puis c'est moi qui vous... C'est incroyable, les rêves, hein? Avec son manteau brillant pendant ce temps-là. J'aurais dû me mettre un manteau multicolore pour compter ça aurait été fort. Moi, j'ai passé des demi-heures à regarder le texte au fil des années. Il disait, Joseph. Joe. Come on, baby. Joseph. Je vais vous parler dans un prochain message. Je suis en intro, là, ce matin. Je vais vous parler dans un prochain message de la sagesse qui protège le rêve, de ce qu'on parle et de ce qu'on ne parle pas, puis des choses, il y a des principes là-dedans importants. Jacob a gardé les choses dans son cœur, Marie avait gardé les choses dans son cœur, Éliezer a gardé les choses dans son cœur alors qu'il était en mission pour le Seigneur. Je ne devrais pas le prêcher ce matin, j'ai dit que je le prêcherai une autre fois. Mais il y a quelque chose que je veux dire ce matin qui m'émeut énormément. Ah, tu peux débattre pendant des années, il a manqué de sagesse, puis c'est un arrogant ici et ça, puis pourquoi est-ce qu'il a dit ça, puis etc., etc. Mais s'il vous plaît, revisitez avec moi tout ce que je viens de vous décrire. Parce qu'une chose qu'il faut qu'on se souvienne, c'est que le rêve était vrai. C'est un rêve de Dieu. Ce que Dieu t'a pour faire, c'est le conduire vers l'Égypte. Il va arriver un moment où Joseph est devenu un gouverneur pour le pays entier. C'est lui qui possède la banque de nourriture du pays. Et c'est lui qu'alors que ses frères et son père sont en famine, ils vont venir à lui alors que Dieu l'a élevé, puis c'est lui qui va les nourrir. Dites avec moi, le rêve de Dieu était vrai. On peut discuter de la sagesse ou pas la sagesse, mais il y a quelque chose en moi que je vais vous communiquer ce matin. C'est tellement simple, mais ça brûlait tellement sur mon cœur. Peut-être qu'il a manqué de sagesse, peut-être qu'il a été arrogant et tout ce que vous voulez. Mais c'est tout ce qu'il a. Dans un milieu de haine et rejeté et abattu partout autour de lui et tout ce qu'il avait de proche de tourbillonner, tout ce qu'il a, c'est le rêve de Dieu. Tout ce qui le tient vivant, c'est le rêve de Dieu. Et alors que toutes les circonstances crient, c'est impossible, Dieu arrive et dépose son rêve en lui. Et je veux dire, il y a des hommes et des femmes dans ce lieu ce matin. Tout ce que la vie pouvait faire pour l'éteindre a été fait. Mais Dieu te dit, c'est moi. J'ai mis un rêve en toi. Et mon rêve est vrai. Et va s'accomplir. Quelqu'un devrait applaudir le rêve de Dieu. Rêve de Dieu plus grand que le pire des passés, plus grand que nos larmes du présent, plus grand que nos larmes actuelles, que nos pleurs actuelles, plus grand que le pire des passés. À chaque personne, Dieu dit, je vous connaissais depuis la fondation du monde. Dieu dit, avant ton passé, j'avais un plan pour ton passé, ton présent et pour ton avenir. Dieu dit, j'ai inscrit ton nom sur mes mains. Ésaïe 49. Elle se disait, Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Même si une mère abandonnait son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Dieu dit, j'ai tatoué ton nom sur mes mains, puis tu vas toujours être devant mes yeux. C'est assez fascinant la façon dont Dieu contraste dans le texte que je viens de lire. Très émouvant, très touchant, très important pour plusieurs ici. Dieu contraste l'attention, la protection, l'amour, la fidélité que l'être humain devrait donner et qui parfois ne donne pas. Il dit même lorsqu'une mère abandonnerait son enfant, moi je ne vous abandonnerai pas. Nous sommes toujours révoltés, dégoûtés, bouleversés. Lorsqu'on voit des gens, moi en tout cas comme pasteur, comme leader chrétien, lorsque tu vois des gens qui représentent Dieu, cette semaine, il y a un procès après l'autre, et puis les gens qui représentaient Dieu abusaient de leur position et on parle de viol des enfants et des recours collectifs et les abus et la pédophilie et tout ça en milieu religieux. Quelle horreur! Lorsque cette semaine, je ne sais pas tous les détails, puis peut-être que finalement, on espère que ça ne sera pas ça. Tout le Québec retient son souffle dans les derniers jours, puis dit, j'espère que ça ne sera pas une autre histoire comme ça, que ça puisse changer, que ça ne soit pas ça. Mais lorsqu'on voit un père qui depuis des mois ramasse des sous pour son enfant malade, qui finalement se retrouve en vacances et puis il n'y a plus d'argent dans le compte, peut-être que c'est pas ça. Mais dans toute la vie, lorsqu'il y a quelque chose qui nous bouleverse, lorsque quelqu'un qui devrait aimer, protéger, garder, être droit, être fidèle, rester là, rester au poste, dire des paroles de vie déchire. Et Dieu ne fait pas fi de ça. Dieu ne fait pas comme si ça n'arrivait pas. Il dit, cependant, sache ceci, même si ta mère t'avait abandonné, même si ton père t'avait abandonné, moi, je t'abandonnerai jamais. Je suis plus grand que ton passé. Ton nom est écrit sur mes mains et rien ne pourra l'effacer. T'es saisi de cette expression-là, Dieu qui dit, je vais littéralement tatouer votre nom sur mes mains. Je vais mettre ton nom devant, parce que les mains sont toujours devant les yeux. Je vais toujours penser à toi, je vais toujours avoir ton nom. J'ai vu dans l'actualité, je ne sais pas où j'ai vu ça ou j'ai entendu ça, mais j'ai fait vérifier sur Internet, puis c'est vraiment le cas. Que l'acteur Johnny Depp, qui est un des acteurs les plus connus en ce moment, c'est lui qui a le rôle principal dans le plus gros film de l'année 2006, Pirates des Caraïbes. Et Johnny Depp est un grand romantique, un grand amoureux. Puis les jeunes filles qui sont ici vont tous soupirer en même temps, juste en montrant le visage de Johnny Depp. Et le reste d'entre nous, les hommes, lorsqu'on regarde Johnny Depp, on dit il y a autre chose dans la vie. Il y a une beauté intérieure qui existe aussi. Moi, je me nourris avec ça en tout cas. Puis Johnny, à un moment donné, est tombé amoureux, passionné et fou de Winona. Winona Ryder, c'est une actrice. Puis il l'aimait tellement, il était tellement passionné par Winona qu'il a fait tatouer sur son bras droit « Winona Forever ». Tout le monde ensemble. Ça, le problème, c'est que quelques mois ou années plus tard, je ne sais pas combien de temps ils ont été ensemble, il a trouvé un autre Winona. Et là, il était prêt avec le tatou, puis la nouvelle Winona n'était pas emballée d'avoir... Alors, il a fait brûler... comprenez que c'est sorti avec un gars qui a écrit Winona Forever. Alors, maintenant, c'est Vanessa. Alors, sur son bras, il a fait brûler le côté Winona. Puis maintenant, sur son bras, c'est marqué Wino Forever. Ce qui veut dire alcoolique ou bien ivrogne pour toujours. J'aimerais vous dire ici que Dieu dit, ton nom est écrit sur mes mains. Puis je ne changerai jamais d'idée à ton sujet. Mon amour pour toi ne changera pas. Je te domperai pas, je te laisserai pas. Tes fautes ne peuvent pas effacer ton nom. Tes erreurs ne peuvent pas effacer ton nom. Ton passé ne peut pas effacer ton nom. Ton nom est sur mes mains. Il est devant mes yeux. Et mon rêve pour toi est plus grand que ton passé. Quelqu'un devrait dire amen. Quelqu'un dont le nom est écrit sur la main de Dieu. Dieu dit, ton nom est toujours sur mes lèvres. Parle toujours de toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. N'aie pas peur, t'es à moi. Je t'ai appelé par ton nom. Alors que 2017 commence, si pendant une seconde le ciel s'ouvrait, vous entendriez la voix de Dieu qui appelle ton nom. Appelle ton nom. T'es toujours sur mes lèvres. T'es toujours dans mes pensées. L'Éternel a ses pensées sur nous. He's mindful of us. Psaume 115. Il nous bénira les petits et les grands. Il est dans nos pères. Le portrait est tellement tendre, tellement magnifique. Dans Sophonie, il dit que tes mains qui tremblent n'abandonnent pas. Toi qui trembles en ce moment, abandonne pas. L'Éternel, ton Dieu, est tout puissant pour toi. Il est comme un héros qui vient à ta rescousse. Et là, il y a une image tellement magnifique, tellement réparatrice et guérissante et apaisante et délivrante pour des personnes qui ne l'ont pas peut-être vécu sur cette terre humainement. C'est un portrait tellement paternel et tellement puissant. Il dit, il poussera des cris de joie pour toi. Tu seras la source de sa plus grande joie. Il triomphera d'allégresse à ton sujet. Des personnes qui sont ici, qui ont besoin de réaliser, besoin de cette révélation que Dieu prend du plaisir en vous. Comme un père qui tripe sur son enfant. Moi, je suis un grand-père adoptif. J'ai un gendre qu'à chaque fois qu'on va chez eux, il faut être prêt mentalement lorsqu'on y va. Parce que tout ce qu'il fait, il parle à ses enfants, mes petits-enfants qui sont extraordinaires. Mais il y a toujours, qu'est-ce qu'on fait? Toujours les exploits. Et on a beaucoup de difficultés à penser à Dieu. On a souvent la pensée de Dieu qui voit toutes les gaffes qu'on a faites. Puis ça, par exemple, il y a le doigt dessus. J'aimerais vous dire que quand vous l'aimez, vous le louez, vous le servez, vous vous repentez, vous pardonnez, vous marchez avec Dieu, vous dites non à quelque chose du péché, Dieu pousse des cris d'allégresse. Il dit, je connais ton passé, mais quand je regarde ton cœur pour moi et ton avenir, mon rêve pour toi me remplit de joie. Moi, je suis un papa de hockey. Croyez-moi, je ne vais pas au match de hockey la patte croisée pour regarder du « Oh, beau jeu, excellente performance de mon fils. » Non, non, moi, je suis un papa de hockey. Si vous me voyez dans une aréna, je suis un papa de hockey. Quelques années, mon garçon était plus jeune, et puis il est arrivé un moment, la partie était super serrée, puis il s'en va en échappée, puis il y a une espèce de philistin qui le fait trébucher. L'arbitre avait l'air d'hésiter, j'étais debout. « Come on, ref! Hey, il y a des lunettes, quelqu'un! Come on! Hey, wake up! » Puis l'arbitre dit « Allô, Pasteur Claude, je vais à l'église Nouvelle-Vie. Gloire à Dieu. » Non. Come on, ref, lance cette punition. Come on, ref. Je disais, ref, lance cette punition. Wow! J'étais assis en arrière du but. Puis je me suis pas, j'ai pas réalisé. J'étais assis en arrière du but, puis j'étais comme ça. Chantal était là. D'un coup, il y a un parent à l'autre bout de l'aréna qui dit « Regardez le pasteur qui prie! » Ah, Dieu, le verset est extraordinaire. Dieu dit, mon rêve est plus grand que ton passé. Puis moi, je vais sauter de joie en 2007 pour toi, pour chaque pas que tu vas faire pour l'accomplissement de mon rêve dans ta vie. Les hommes d'affaires qui sont ici, qui se sanctifient, qui donnent et qui sacrifient, et des gens de toutes les marges de la société qui font des pas pour Dieu. Le verset est tellement, tellement magnifique. Parce qu'il y a des gens qui sont en ce moment qui disent « Ouais, c'est bien beau, là, Dieu qui saute de joie, mais moi, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses dans le lieu secret. J'ai commis des actes qui ne font pas sauter Dieu de joie, quoi, moi. » Et le même verset dans Sophonie, le même verset est tellement magnifique, il dit « Sautera de joie. » Il sautera pour ça des cris d'allégresse à cause de toi. Mais le même verset dit « Il va venir à ton secours comme un héros et il te couvrira de son amour pour toi. Il gardera le silence. » À son amour pour toi. Il gardera le silence sur tes fautes. Il gardera ses yeux sur toi en silence pendant ton repos. C'est certainement pas Dieu qui dit le péché n'est pas grave, tu peux faire n'importe quoi. C'est pas ça du tout. Mais c'est une image magnifique que beaucoup d'entre nous parents ont vécu. C'est une image d'un enfant qui est endormi. Puis le père, là, il aime tellement. Le temps passe, puis tu vois même pas, tu es juste là. Puis tu regardes ton enfant dormir. C'est une image de tendresse et de protection. C'est une image de Dieu qui dit, lorsque tu faisais des exploits, moi, je saute de joie pour toi. Mais lorsque tu es malade, je vais te veiller. Je vais te garder, je vais te couvrir. Je suis plus grand que ton passé. Je vais être ton père. Je vais inscrire ton nom sur ma main. Je n'ai pas le temps de le prêcher. Je vais le faire la semaine prochaine. Je prie que vous soyez là. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Et dans le texte qui suit, il y a des choses qui arrivent à Joseph, qui sont arrivées à plusieurs d'entre nous, qui sont tellement extraordinaires. Dieu dit, je suis plus grand que le poids de ton passé, mais je suis plus grand aussi que tes pleurs présents. Ils sont arrivés, puis la Bible nous dit qu'ils ont arraché le vêtement. Ils ont arraché le manteau de Joseph. J'aimerais vous dire à chaque personne ici, ils peuvent vous arracher votre tunique, mais ils ne peuvent pas faire mourir le rêve de Dieu en vous. Il y a des gens qui sont ici, que vous avez passé, des gens qui ont passé une épreuve, vous avez passé. J'ai perdu quelque chose, des gens qui ont vécu un divorce, des gens qui ont vécu des pertes, des gens qui ont vécu des hontes, des gens qui ont vécu des échecs, des accusations, des propos qui ont été dits sur vous. J'ai perdu quelque chose d'extérieur, ils m'ont arraché, quelque chose que je croyais qui était là, qui était à moi. J'aimerais vous dire aujourd'hui, ils peuvent arracher la tunique. Mais ils ne peuvent pas faire mourir le rêve de Dieu en toi. Je vais vous dire une autre chose. Ceux qui l'ont, les tueurs de rêves, qui l'ont mis en route vers l'Égypte, ils pensaient mettre fin à Joseph. Ils l'ont dit même, on va voir ce qui va arriver avec son rêve. Regardez, c'est le grand rêveur qui arrive. Ils lancent dans le trou. La cruauté hallucinante, ça. Ils se mettent à manger une bouchée entre les deux, bien qu'il y en a un qui dit, au lieu de le laisser dans le trou, on va le vendre comme un esclave. On va le vendre le prix d'un esclave handicapé. Et alors qu'ils le mettent sur le chariot et qu'il part, et la Bible nous dit que le chariot s'en va vers l'Égypte. Suivez-moi bien, ne manquez pas ceci. Le chariot s'en va vers l'Égypte. Ceux qui croyaient mettre fin à son rêve étaient en fait en train de le diriger vers l'accomplissement du rêve. Est-ce que vous comprenez? C'est en Égypte qu'il faut qu'il aille. C'est en Égypte qu'il va être roi. C'est en Égypte que Dieu va l'élever. C'est en Égypte que le rêve va se réaliser. Je ne veux pas être... Je vais le prêcher la semaine prochaine. Mais il y a des gens qui... On a traversé des choses. Et laissez-moi vous dire ce que l'ennemi voulait pour ton mal, ce que les gens ont fait pour te faire du mal, ils étaient en train de te pousser vers l'accomplissement de la volonté de Dieu en toi. Je vous en lance une dernière, puis je vous la chargerai pas. Jacob s'est mis à pleurer, à déchirer ses vêtements. Puis ils ont amené la tunique souillée d'un animal qu'il avait tué. Puis il s'est mis à pleurer, puis il a dit, moi, je ne serai plus jamais consolé. Je vais aller à ma mort en pleurant. Puis l'histoire nous rappelle que pendant 20 ans, il a pleuré, ce qui en fait n'était pas mort, mais était en train d'être préparé et développé pour la gloire de Dieu. Je ne veux pas être insensible, je vous dis avec beaucoup d'amour, puis on pleure avec vous et on vous aime, on va prier avec vous, mais je voudrais me promener dans les allées ce matin puis prendre votre visage dans mes mains. Puis je voudrais vous essuyer les larmes sur les yeux puis dire, arrête de pleurer. Arrête de pleurer pour qu'est-ce que tu penses mort. Il y a des choses que tu penses mort. Ce rêve, cet appel, cette chose avec Dieu, cette chose que j'avais. Il y a des choses que Jacob avait un rêve, lui, puis il pensait que son rêve était mort. Il a passé 20 ans de sa vie à pleurer pour quelque chose qui n'était pas mort et qui était pour être encore plus grand que n'importe quoi qu'il pourrait imaginer. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse s'emparer de nos cœurs et dire, Seigneur, permets-moi de cesser de pleurer ce que je pense qui est mort alors que j'ai devant moi le Dieu de la résurrection. Et alors qu'il m'ont poussé vers l'Égypte, Seigneur, alors qu'ils pensaient mettre fin à mon rêve. En fait, leur main était sous ta main et c'est toi qui me conduisais et qui va me conduire dans l'accomplissement du rêve de Dieu. Si vous dites un dernier grand Amen et que vous applaudissez, on va arrêter ici. Allez. Applaudissez le rêve de Dieu. Levons-nous ensemble. Hallelujah. C'est pas quelque chose qui est légaliste ou quelque chose qui est extérieur, mais si vous êtes sentez libre de le faire, j'aimerais que vous tendiez vos bras comme un enfant tend ses bras vers quelqu'un qui l'aime et que vous disiez, Seigneur, moi mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves. Commencez à lui dire, Seigneur, moi mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves. Mon frère, écoute-moi, t'as peut-être perdu ta tunique. Il y a quelque chose qui t'a été arraché, mais ils ne peuvent pas tuer le rêve. Mon frère, ma sœur, écoute-moi. Ce qui te poussait vers l'Égypte et qui a fait mal et qui t'a rempli. Imaginez Joseph, l'insécurité, la peur sur le chariot vers l'Égypte. Était en fait la main de Dieu qui va prendre les circonstances et faire une œuvre en toi. Faire une œuvre en toi pour te rapprocher de l'accomplissement de ton rêve et de ton appel. Vous levez vos mains, vos cœurs et dire, Seigneur, vois mon désir de te servir.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
toute la parole de Dieu sans compromis.